Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, ces mines antipersonnelles françaises qui explosent encore en Algérie.
انا بالحق في الاستقلال كي استقلينا ورجعنا نقولوا لهنا للبلاد
c'était 2-3 mois après l'indépendance, c'était l'euphorie de l'indépendance et lui il n'a rien fait, il marchait sur la route et subitement il a senti l'explosion c'est là.
يعني ما طريق ما كيما راك تشوف فيها هذا الاخر عليه ما عشت فيها حتى وطيت فيها.
Est-ce que il se rappelle le bruit de l'explosion?
سمعت الحس تاع داك القنبله هذيك تاع الغلم صح
لا ما تحش حتى هو كي يوطى بلاد نوض النهار
ما سون سوفيان با مي يلا فيو كي لافي دو فو افون دو سيفانوير
الدم يبقى يسيل الدم الاخر عليه كاع انقطع سور بلاص
دونك يلا بيردو سا جام دروات سور بلاص يافي بلان دو سون سون اي بارون دو كونت سيتي فانوي
ايوا ما فقتش من ديك الضربه ملي وصلت هنا للسبيطار تاع تلمسان
دونك سي لو لوندمان كي سي ريفيي ان سو ديكوفران افيك اون جامب اون موان اي ليغوتي بور كيل بوج با وكانت عندك قريب 21 عام
هكذيك
لا في بريس 21 عام
Le long des frontières algériennes, une détonation impromptue brisera peut-être le silence. Ce sera un soldat, un berger, un paysan ou un enfant qui aura posé le pied sur une mine antipersonnelle. Ce sera la mutilation ou ce sera la mort. Ce sera surtout un cadeau posthume de la colonisation. Car aujourd'hui encore, des millions de mines antipersonnelles polluent les campagnes algériennes. Et ces engins de mort, c'est l'armée française qui les a posés. C'était il y a près de 60 ans, au plus fort de la guerre d'Algérie. Depuis, elles ont fait des milliers de victimes, et ça n'est sans doute pas terminé.
Il y a un dessin où on voit un petit enfant qui est habillé en footballeur et qui tire dans un ballon de foot. Mais attention, il y a un dessin avec une tête de mort. Et l'image d'après, ben, effectivement, malheureusement pour lui, il a tiré dans le ballon. Et il y avait une mine en dessous. Et là, on voit son pied qui gicle, ensanglanté. Donc ça, c'est des choses qui peuvent malheureusement arriver.
Aude Boumbaché, chef de mission de l'ONG Handicap International à Alger.
Donc c'est des schémas, des dessins très simples qui montrent qu'est-ce qu'il faut faire si on rencontre un objet inconnu ou un objet qui ressemble aux mines. Donc on s'en approche, mais pas trop, hein, vraiment de loin. Et là, il faut mettre deux bouts de bois en forme de croix ou de X, et ça c'est ça le symbole pour dire que attention, il y a une mine. Et ensuite signaler effectivement aux autorités, à la gendarmerie qui eux vont faire appel ensuite à l'armée pour enlever cette mine là. Donc et si jamais on se trouve sur un chemin où on voit une croix ou en forme de X, surtout ne pas s'approcher. Donc ça a été une campagne de sensibilisation qui a été menée entre 2010 et 2013, en fait, plus spécifiquement avec l'utilisation de ces dépliants dans toutes les écoles de l'Est et l'Ouest algérien.
Fous pas ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Pas ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras jusqu'au.
Les actualités françaises, le 11 novembre 1954.
Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulées les obsèques des trois soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Tiefenfeld, au cours duquel son mari fut tué. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli.
Et non, monsieur le journaliste des actualités françaises, le calme ne sera pas rétabli, au contraire. Après le 1er novembre 1954, les attentats se succèdent et c'est le début de 8 années de guerre. Dans un camp, la monumentale armée coloniale française. Dans l'autre, les insurgés algériens du Front de Libération Nationale, le FLN, et sa branche armée, l'ALN, Armée de Libération Nationale. En mars 1956, le Maroc et la Tunisie obtiennent leur indépendance. Pour les guérilleros algériens, c'est une aubaine. Ils disposent maintenant d'une base arrière logistique. Protégés par les frontières, ils créent des camps d'entraînement militaire pour leurs volontaires. Ils se réfugient. Ils importent des armes destinées aux combattants des maquis à l'intérieur de l'Algérie. Côté français, on constate rapidement que leur armement se développe, comme l'écrira plus tard le général Jean Dalmas. Le fusil de guerre remplace petit à petit le fusil de chasse. Les explosifs et les pétards de fortune se transforment en dynamite. Il faut donc surveiller les frontières terrestres afin d'en interdire, sinon d'en limiter, les passages. Pour ce faire, l'armée française décide d'établir, à chaque frontière, d'impressionnants barrages. Sur plusieurs centaines de kilomètres, on érige des barbelés électrifiés. On pose des millions de mines antipersonnelles. Côté français, on appellera ces barrages « ligne Maurice » et « ligne Challe », du nom du ministre de la Défense, André Maurice, et du général Challe. Les combattants de l'armée de libération nationale algérienne, qui, eux, doivent en traverser les champs de mines, les surnommeront « les jardins de l'enfer ».
Radiodiffusion Télévision Française. Le 11 mars 1959.
Eh bien, ces scènes de guerre auxquelles vous venez d'assister, qui pour vous sont comme une actualité insolite, pour vous qui êtes en ce moment confortablement assis dans votre fauteuil, qui irez demain, comme tous les matins, à votre bureau, elles sont, en revanche, la réalité quotidienne pour des centaines de gars de chez nous. Ce sont les militaires français qui se trouve sur la frontière algéro-tunisienne, sur ce fameux barrage électrifié qui est tout le temps au premier plan de l'actualité, chaque fois qu'il est question soit de l'Algérie, soit des rapports franco-tunisiens, que M. Bourguiba a appelé au cours d'une récente conférence de presse le barrage qui tue. Eh bien, ce barrage dont on vous parle tout le temps, vous ne l'avez jamais vu. Et c'est pourquoi Saint-Colonne à la Une a décidé de vous le montrer. Alors Georges Panchny, où sommes-nous? Ce fameux barrage, où commence-t-il exactement?
Eh bien, à peine à quelques kilomètres de Beaune, et nous sommes naturellement au bord de la Méditerranée. Ça, c'est le kilomètre zéro du barrage, qui fait 450 kilomètres en tout. Voilà le kilomètre 1, et c'est une image qui a été prise, vous voyez, juste à côté du barrage électrifié. Et vous avez là 500 volts le jour, 5000 la nuit. Alors nous avons pris tout le long de ces 450 kilomètres, jusqu'au sud, jusqu'au désert. Nous allons arriver aux images de guerre, et c'est d'ailleurs quelqu'un d'autre que moi qui va vous en parler. C'est le général Dulac, qui est le commandant de la frontière et qui est en même temps préfet de Beaune.
Mon général, sur le plan militaire, premier problème évidemment, c'est la défense du barrage. Est-ce que vous pouvez me dire comment cette défense est assurée?
Eh bien, l'efficacité de ce barrage repose sur une combinaison très étroite de moyens techniques, sans cesse en évolution, et de moyens humains. Dans ces moyens humains qui font appel aux troupes de toute catégorie, le plus original est certainement celui qui s'appelle communément la herse.
Alors qu'est-ce que c'est que la herse?
Eh bien, la herse est née de la nécessité de donner au barrage une vie intense la nuit, puisque c'est la nuit que l'adversaire fait son effort principal. C'est-à-dire que nous avons demandé à des unités de vivre la nuit et d'opérer la nuit comme il est courant de travailler et d'agir le jour.
Ici Bloody, c'est également 5.
Oui, eh bien, c'est un travail pénible, en tout cas fastidieux. Tous les jours, ou plutôt toutes les nuits, le même cérémonial recommence. Alors là, ce soir-là, justement, ça n'a rien de spécial d'ailleurs, il y a eu un franchissement et nous avons assisté à l'alerte et au tir sur le barrage.
Extrait du documentaire d'Ali Fateh Hayadi, les lignes André Maurice et Maurice Chal.
On a cisaillé les barbelés au niveau de Boussala et on a déminé avec une fourche. On a soulevé les fils électriques avec des bâtons de bois pour ne pas donner l'alerte. On a d'abord cisaillé les barbelés de la ligne Maurice. Mais au moment de franchir la ligne Chal, notre chef de section a posé le pied sur une mine. Et il a entendu son tic-tac. Il nous a ordonné de nous arrêter. C'était une mine. Nous, on s'est mis à terre. Certains ont continué d'avancer. Et lui, le pauvre, il est resté seul, le pied sur la mine. Et dès que ses compagnons se sont éloignés, il s'est jeté en arrière. Et la mine lui a sectionné les jambes.
Écho, en 2755, distance 9600.
Gisement 2755, distance 9600. Artilleur, préparez un tir. Gisement 2655, distance 9100.
Fait.
Nous, les combattants de l'armée de libération nationale, nous avions l'embarras du choix du procédé de la mort. Soit être grillés par l'électricité, soit recevoir des éclats d'un obus d'artillerie, soit recevoir des éclats d'une roquette ou d'une balle d'avion ou d'hélicoptère de combat.
Extrait du livre du colonel Amar Boudjelal, Les barrages de la mort, 1957-1959, Le front oublié.
Et puis, il y avait les mines. Quand on avait vu un compagnon tué par une mine, n'importe quel autre outil de guerre devenait un jouet, un engin banal. Il y avait cette fatalité qui pouvait attribuer votre mort à votre propre action. C'était votre pied qui déclenchait le désastre et non quelque ennemi tapé dans le noir. L'armée française a truffé de mines toutes les zones du pays que nous devions traverser.
Le FLN, une des caractéristiques du FLN historique, c'est le pragmatisme.
Amar Mohandamer, historien à l'université d'Oran.
Il tire les leçons des barrages, de la solidité des barrages, de l'efficacité des barrages. Moi, j'ai trouvé dans les archives une lettre écrite par un officier de l'ALN en Tunisie, au GPRA, donc au gouvernement provisoire de la République algérienne, qui disait « arrêtons le massacre ». Parce que quand on envoie 100 combattants de Tunisie, 3 arrivent, ou personne. Donc il leur a dit « n'envoyons pas nos enfants, changeons de stratégie ». Ça n'a pas empêché l'ALN de s'attaquer à ces barrages, mais c'était un peu un combat perdu d'avance. Mais ça a permis aux stratèges du FLN de complètement réorienter le combat vers le politique, vers la diplomatie, notamment avec un travail de sensibilisation et d'impact sur l'opinion publique européenne, notamment française, avec les intellectuels, avec les syndicalistes, avec les étudiants, mais aussi dans les autres pays, notamment les pays nordiques et en Amérique. Donc l'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont répondu à cette mobilisation du FLN à l'international. Donc la guerre, en fin de compte, la diplomatie a vaincu les barrages.
En 1962, l'Algérie obtient finalement son indépendance. Elle hérite d'un territoire monumental, d'un sous-sol riche en pétrole et d'environ 11 millions de mines antipersonnelles enfouies dans le sol, principalement aux frontières. Les paysans sont privés de leurs terres, des bergers risquent leur vie dans les pâturages. Monsieur Kadar Ayroyen, que l'on a entendu au tout début de cette émission, perd une jambe à la fin de l'été. Il faut déminer.
Youssef Menasria, historien à l'université de Batna.
À l'indépendance, les Algériens ont fait recours à des sociétés étrangères, italiennes, des sociétés russes, et bien sûr le génie algérien, le jeune génie algérien, pour éliminer ces mines. Mais, à vrai dire, ils n'ont pas de plan.
Et non, les Algériens n'avaient pas la carte des champs de mines. Ces plans, c'était l'armée française qui les avait. Et elle a attendu jusqu'en 2007 pour les remettre finalement à l'Algérie. 45 ans après l'indépendance, ces plans n'avaient plus vraiment d'utilité. Car dans la terre, les mines bougent. Avec la pluie, avec l'érosion, avec les glissements de terrain, elles se déplacent. Comme le disait un expert algérien du déminage, un ou deux ans après leur mise en place, elles ne sont plus à l'endroit où vous les aviez mises. 10 ans après, elles en sont à un ou à plusieurs mètres. 20 ans après, nul ne peut prétendre savoir qu'elles sont ici ou qu'elles sont là. En attendant, ces mines ont fait des milliers de victimes. Déjà en 1971, un court-métrage dénonçait ce carnage. Dans ce film, inspiré de faits réels, un ancien soldat du génie militaire français racontait son retour en Algérie. C'était quelques années après l'indépendance et c'était pour travailler dans le secteur pétrolier.
Voilà le patron, le directeur, Assimi Saoud. Il me dit, voilà, vous allez partir avec un gars, il s'appelle Rachid. C'est un arabe. Vous allez vivre 3 mois ensemble, vous allez faire 8000 km dans le désert. C'était l'aventure, quoi. On dit, mais d'abord, il faut que vous connaissiez, et vous avez pour ça 5 jours, ici, pour vous connaître. Et on me présente Rachid.
Extrait du film de René Vautier, Techniquement si simple.
Avec Rachid, je vais manger à la cantine, comme ça. Moi, je commence, je dis, alors il fait beau en Algérie, vous avez du soleil, tout ça, enfin, banalité, l'Algérie de carte postale, quoi, et puis je lui dis... Il fait froid aussi parfois chez vous. D'ailleurs, à la guerre, j'ai failli avoir les pieds gelés. Là, c'était un terrain un peu épineux, on est venu à parler de la guerre. Mais de suite, j'ai rassuré, j'ai dit, moi, j'ai pas fait la guerre, pour ainsi dire. J'ai jamais tenu un fusil, c'est vrai, j'ai jamais tenu un fusil à la guerre. J'ai jamais tiré sur un Algérien, par eux, j'ai dit. J'étais dans la technique. Et je m'occupais des mines. Alors, je lui explique comment on faisait pour poser les mines. C'est simple, pour poser les mines, c'est un boulot de technicien, mais on a toujours besoin d'avoir recours à un truc très simple. On plante un piquet qui sert de repère, et à partir de là, on prend un angle, mettons à 45 degrés, et on pose 5 mines comme ça, les unes après les autres. Puis on revient dans un angle encore à 45 degrés, et là, on repose encore 5 mines, et puis on part dans un autre angle comme ça, si bien qu'à la fin, on obtient pratiquement un jeu de marelle, quoi. Et alors je lui explique. Mais pour tout ça, bien sûr, il fallait faire des trous. Alors on avait des Arabes qui faisaient les trous, bien sûr, mais les mines, c'est nous qui les placions, on n'était pas fous quand même. Et je lui dis, on était une bonne équipe, des pères tranquilles, enfin je ne veux pas dire des vieux, non, mais des mecs solides, costauds, qui aimaient la rigolade, on mangeait bien, tout ça. Des gars qui s'étaient dit, entrons dans le génie. Parce que dans le génie, on ne flingue pas les gars, on ne se fait pas flinguer. Et puis on est tranquille, quoi. On travaillait 8 heures comme des fonctionnaires, mais sur les 8 heures, on se débrouillait encore pour tirer au cul, quoi. Voilà. Alors bien sûr, on tirait au cul, mais quand même, l'Algérie d'hiver, il fallait se la faire, surtout du côté de Soukaras. Alors le Rachid, comme ça, il relève la tête, et il me dit, moi je suis de Soukaras. Et après, le pourpoint, comme ça, il me dit, on a quelques jours encore, tu veux qu'on y aille? Alors moi, je dis, ah oui, ça me ferait plaisir. Alors je dis, oui, d'accord. Et nous voilà partis pour Soukaras. Mais pendant 3 jours, vous savez pas ce qu'il m'a fait. Il m'a fait marcher dans toutes les rues de Soukaras et des villages environnants. Et chaque fois que tous les 100 mètres on rencontrait un gosse à qui manquait une main, un bras, une jambe, il me disait, il a sauté sur une mine. Comme ça. Et puis, il m'a dit, tiens, je vais t'amener manger chez moi, dans ma famille. Alors moi, une famille algérienne, vue de l'intérieur, je ne connaissais pas. Ça m'intéressait, bien sûr. Et il m'amène manger chez lui. Et juste en face de moi, il y avait son petit frère. Et le petit frère, il n'avait plus de main. Alors la mère, elle lui donnait comme ça à manger à la béquée. Il m'a rien dit, il m'a pas regardé, même pas. Mais quand même, je suis pas fou, vous comprenez, faut pas me la faire. Je savais bien qu'il avait sauté sur une mine. Mais ces gens-là, ils ont pas de délicatesse, ils ont pas de tact, vous comprenez. Alors ils me l'ont mis juste en face, comme ça. J'aurais quand même pu le faire manger à la cuisine, je sais pas, moi. C'est tout ça, c'était pour rappeler l'histoire de la guerre, tout ça. Il se régalait, le gars, c'est tout. Enfin, ils savent pas vivre, ils savent pas vivre, moi j'y peux rien, hein. Et puis, on a continué à marcher, tout ça, et il m'a amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, là, il y avait des docteurs, des Cubains et des Bulgares, qui soignaient comme ça des tas de gosses, infirmes, estropiés, tout ça. Et puis on est allé dans les champs. Et dans les champs, là, il y avait des gars qui enlevaient les mines. Et c'était des Algériens et des Russes. Et il me dit, tu vois, ce sont des Algériens et des Russes. Ah, moi, ça m'a plu. J'ai dit, bon, c'est bien, c'est la coopération internationale, quoi. J'ai même cru qu'il allait me présenter aux Algériens, aux Russes, et leur dire, ah, c'est lui qui a posé les mines, ouais. Non, quand même, il a pas osé, il est pas allé jusque-là. Quand on est remonté dans la voiture, j'ai été bien forcé de lui dire quelque chose, puisque lui, il disait rien. Alors j'ai dit, tu sais, si tu m'en veux pour les gosses qu'on a vus, pour tous ces estropiés, pour toutes les mines, tout ça, il faut aussi que tu en veuilles à ceux qui payaient leurs impôts pour qu'on fasse la guerre, pour qu'on fabrique des mines, à ceux qui votaient pour que la guerre... Je dis, moi, ce que je faisais, c'était simplement un boulot de technicien. Et puis c'est vrai, c'était simplement un boulot de technicien. Il m'a dit, oui, je sais, c'était techniquement si simple.
فغاية جرد ثامور زيو الخير دو في ضزيه يمحا ماذا لقاضك يزنزن ناوي دلعقذ ما يصحا
Les chiffres ne sont pas certains, mais depuis l'indépendance, les mines françaises auraient fait plus de 3200 morts et un peu plus encore de mutilés. Certaines sources avancent même le chiffre de 80 000 blessés. Avec le temps, avec les progrès du travail de déminage, les accidents sont de moins en moins fréquents. Le dernier décès rapporté par la presse algérienne remonte à 2011. C'était un enfant de 10 ans. Mais le risque demeure. Les opérations de déminage ne sont pas encore terminées. Il resterait encore un peu moins de 2 millions de mines à neutraliser.
France 5, à une dizaine de kilomètres de la frontière tunisienne, décembre 2012. Et à seulement quelques mètres d'un village, l'armée algérienne démine chaque jour. À chaque pas, ce soldat à l'allure d'astronaute risque sa vie. C'est lui qui localise les mines posées par la France, vestige de la guerre d'Algérie. Une fois marqué, un autre démineur déterre délicatement la mine vieille de 50 ans avant de la désamorcer à la main. Pour un seul lopin de terre large de 20 mètres sur 5, l'armée a aujourd'hui récolté 60 mines qu'elle va détruire.
«
qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la France, au président français par exemple, à l'armée française?
Kada Reyreyen, président de l'association des victimes de mines dans la wilaya de Tlemcen.
Moi, j'étais un civil. Nous, les victimes, nous sommes des civils, nous sommes des innocents. On n'a pas pris des fusils pour combattre la France, nous ne sommes pas des flagas. Donc, nous n'avons rien demandé à la France ni à l'Algérie. Et c'est la France qui est venue pour nous causer cet handicap pour toutes les victimes. Il dit à la base, nous étions français. Et puis subitement, il y a la guerre. Ils se sont confloués, quoi. Il était français, ensuite il y a eu la guerre. Il n'a pas fait la guerre. Après l'indépendance, il a été victime des mines antipersonnelles. Et il demande à la France de les aider. Il ne parle pas de réparation, mais peut-être il n'a pas dit, mais de les aider, de leur donner leurs droits, parce que c'est une victime de la France, de la guerre de la France.
Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'aide de la France.
Français, mais on ne compte pas. Non, rien du tout.
Voilà, ça vient pas de nulle part, c'est fini pour aujourd'hui. Sachez tout de même encore qu'en plus des mines antipersonnelles françaises, les Algériens doivent se débattre avec des mines posées par leur propre armée durant la décennie noire et avec des engins artisanaux implantés par les terroristes de cette même sombre époque. Pour en savoir plus, je vous renvoie au site de Radio Grenouille, à la page de Ça vient pas de nulle part. Vous y trouverez tout un tas de liens et de références, ainsi que la version écrite et un peu plus complète de l'histoire que l'on vient de vous raconter. À la technique aujourd'hui, c'était Sébastien Joly. Pour le reste, cette émission a été préparée par Claire Rivière, avec l'aide ô combien précieuse de Shahreddin Beria, Méziane Aban, Souhila Benali, Nejma Rondeleux, Marie-Noël Batalia, Jonas Sonouillé, Ilyas El Meskini, Juliette Palmade, Alice Sambaoui, Elodie Gabillard, Agour et Malika de la Maison Kabyle à Marseille. Qu'ils soient tous ici remerciés, ainsi que les équipes de Radio Grenouille et de Babel Med, dont la bourse Jeunes Journalistes en Méditerranée a financé une partie de ce voyage en Algérie. Je remercie enfin et aussi le préposé à la sécurité de l'aéroport Wari Boumediene à Alger, qui a bien voulu croire en mes talents de chanteur. Bonne soirée, Tarek Salama, et à bientôt.